Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous saluer, non pas seulement en mon nom, au nom de celui de mon épouse aussi, mais aussi au nom de l'Église d'Orthez. Et je crois que c'est un plaisir pour les communautés de pouvoir échanger et de pouvoir s'enrichir les unes les autres. Et je souhaite, puisque c'est le temps de la nouvelle année, que l'on puisse renouveler les choses de cette manière, et peut-être au-delà des échanges de chair, que l'on puisse avoir plus d'échanges encore entre nos églises. Je sais que c'est une attente de plusieurs, de part et d'autre. Alors, puisse cette année être une année de concrétisation de ce genre de relations. Ce matin, j'ai envie de partager avec vous des textes qui sont l'un comme une déclaration, l'autre comme une, peut-être une tâche dans ce qui peut faire l'émerveillement d'un début d'année, d'une fin d'année. Mais avant, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons reconnaître que ta parole est une parole de vérité, utile pour notre édification, l'édification de l'Église. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es justement sauveur, rédempteur en Jésus-Christ. Permets que ce matin encore, cette parole touche nos cœurs par ton Esprit Saint. Et au-delà de nos cœurs, touche les Églises, touche tes témoins, touche cette terre. Que ta gloire, Seigneur, puisse être perceptible. Amen. Je parlais d'une déclaration, c'est celle de l'apôtre Pierre. J'aurais pu prendre peut-être un autre apôtre, un autre évangéliste, mais je trouve cette déclaration comme vraiment utile, comme une pierre peut l'être dans la construction d'un édifice, puisqu'il s'agit de considérer une pierre vivante et nous-mêmes comme des pierres vivantes. Cette déclaration, elle est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 10. Pierre dit ceci, en parlant de Jésus, « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. » Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. Et pour constituer un groupe de prêtres, Pierre use peut-être deux mots qui ne sont peut-être pas tout à fait attendus. Prêtres, oui. On pourrait penser aux pasteurs, prêtres, ceux qui sont dans le ministère. Non, vous êtes un groupe de prêtres, consacré à Dieu, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, Jérusalem, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber. Un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Cela reprend des paroles qui sont contenues dans le livre du prophète Osée. Ça, c'est la déclaration que je voulais vous faire entendre en ce début d'année. Vous aurez l'occasion d'entendre encore des déclarations qui proviennent de la parole de Dieu pour dire « Voilà ce que vous êtes appelés à vivre, voilà ce que vous êtes, voilà ce qu'on attend de vous dans ce monde. » Alors maintenant, j'ai voulu choisir un texte qui fait justement tâche par rapport à tout ce côté assurance, certitude, confiance, mais qu'il faut lire. Ce texte que je vais lire fait suite à la visite des mages pour adorer Jésus. Et puis ils sont allés par un autre chemin. Et au verset 16 de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, nous lisons « Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans. Conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue, ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. On entend à Rama, bourgade voisine de Bethléem, une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. » Comme beaucoup d'églises, vous avez été amenés pendant cette fin d'année 2019, et je pense aussi cela déborde encore sur l'année 2020, à considérer des textes que je qualifie de textes d'émerveillement. Vous avez entendu des bergers adorer le Seigneur, vous avez considéré qu'il y avait des nuées d'anges qui les entouraient, qui entouraient ce moment spécial de la naissance de Jésus. Vous avez entendu parler de mages qui sont venus adorer. Vous avez entendu parler de l'émerveillement aussi de Joseph et de Marie. Et puis voilà qu'il y a ce texte qui parle de massacre. Cela a été peint, cela a été décrit, rappelé de plusieurs manières dans la culture pour rappeler ce massacre des innocents. Ces garçons de moins de 2 ans qui conduisent à se rappeler une parole de Jérémie. Rachel, épouse de Jacob, Rachel pleure ses enfants et personne ne peut la consoler. Nous sommes parfois liés à des moments d'émerveillement et cela se justifie quand on s'adresse à Dieu, quand on repère Dieu dans sa vie, quand on constate que Dieu, effectivement, il est celui qui peut vraiment consoler. Puis il y a des moments où nous sommes devant des questions qui nous dépassent. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, si tu es souverain, tu laisses faire ? Pourquoi déranger notre tranquillité ? Pourquoi ces bruits de guerre alors qu'on forme des vœux de paix ? Je crois qu'il nous faut entendre ces paroles. Autant que Matthieu a désiré les rappeler cet événement et nous les faire connaître, il n'a pas voulu se voiler la face, il tient à nous dire vraiment une réalité. La puissance du péché. Nous sommes des faits. Et même nous sommes parfois, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, réduits à connaître des moments difficiles avec des tas de questions. Et nous avons beau avoir des amis, comme Job a pu en avoir aussi en son temps, qui s'approchent pour essayer de dire un mot, faire un geste. Non, ça ne console pas. Et comme Rachel, qui pourrait nous consoler ? Qui peut comprendre ? Qui pourrait même se donner le droit de consoler ? Vaut mieux se taire. C'est tellement dur ou injuste. Encore une fois, Matthieu ne cache pas la réalité qui s'est passée dans ce temps particulier de la venue de Jésus. Matthieu ne se voile pas la face, lui le juif, qui a pu découvrir que Jésus, dans son peuple, était ce Messie attendu. Et Matthieu tient à nous révéler qu'effectivement, le péché est puissant, destructeur, sournois. Alors nous repérons la venue de Jésus et nous repérons que cette venue n'est pas bienvenue dans ce monde. Même parler de Jésus, ça dérange. Parler de Dieu, ça dérange. Parler de l'Église, ça dérange. En France, ça dérange. La plus souvent, au nom de la laïcité, ça dérange. Mais je crois qu'inversement, nous devons d'autant plus prendre conscience que Jésus, s'il est venu, c'est pour faire obstacle à celui qui est décrit dans la parole de Dieu comme le prince de ce monde. La venue de Jésus, elle est révélatrice du mal et du malaise dans lesquels on peut s'installer ou se trouver installé. Mais la venue de Jésus est vraiment indispensable. Le ministère de Jésus lui-même le dévoilera par son enseignement, par ses rencontres, par sa vie et sa mort et sa résurrection. La venue de Jésus est vraiment indispensable pour mettre un terme à la victoire, je dirais, illusoire du mal. Et c'est là que je vous propose de nous mettre à l'école de l'apôtre Pierre. Pierre va dire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, lorsqu'il est devant le Sanhédrin, tribunal juif, « C'est en lui seul, en parlant de Jésus, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Autant, tout à l'heure, j'ai fait entendre une déclaration dans la lettre de Pierre, autant ici, il y a cette proclamation. « En lui seul se trouve le salut. » Pierre est aussi celui qui fera cette belle confession de foi qui concerne l'Église, parlant de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et d'entendre Jésus lui dire « C'est bien Pierre, c'est sur une telle confession de foi que l'Église va tenir debout. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre est aussi celui qui va être confronté à Jésus après sa résurrection pour examiner finalement le genre d'amour qu'il habite à l'égard de Jésus lui-même. Et parfois, ces questions nous rejoignent. Jusqu'à quel point est-ce que tu es capable de m'aimer en dépit de tes souffrances, de tes questions? Tu aimerais tellement toutes les réponses. Est-ce que tu m'aimes quand même? Et Pierre est celui qui va donc parler avec autorité, parfois se faire réprimander par un apôtre, qui est l'apôtre Paul aussi, on le lit dans une des lettres de Paul. Pierre est celui qui chemine, celui qui grandit, celui qui se laisse enseigner et celui qui a aussi une autorité. Alors, nous avons à considérer ce que dit Jésus, ce que dit Pierre dans sa première lettre. Je ne pense pas comme à la légère, mais vraiment comme quelque chose qui doit nous prendre chaque jour dans nos cœurs, dans nos pensées, nous stimuler pour ne pas nous laisser trop facilement éloigner de ce que le Seigneur a projeté. Nous avons à subir des influences, des pressions qui sont dans le monde par les médias, et les médias ont un beau jeu dans ce sens, qui font dire un peu ce que Ève a pu s'entendre dire. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu est vraiment créateur de cet univers, de ce monde, de cette terre, de ses créatures? Est-ce que Dieu est vraiment souverain? Est-ce que Dieu est vraiment sauveur unique en Jésus? J'ai l'impression que cette phrase qui a été adressée à Ève revient vers nous souvent. Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Serions-nous amenés à relativiser la puissance et le salut de Dieu à cause de cet exercice nocif du mal sur notre monde, sur nous-mêmes? Nous devons entendre que Jésus n'est pas le fruit du hasard. Il vient selon des promesses. Nous devons entendre que Jésus est bien différent de toutes les formes de sagesse et de Dieu qu'on veut bien se forger, auxquelles on veut bien se cramponner. Il nous faut entendre que Jésus, s'il est annoncé de façon surnaturelle, des anges, des rêves, des prophéties, eh bien c'est normal. Il ne peut pas venir de manière aussi naturelle. Dieu vient. Dieu vient. Il s'invite dans notre monde méchant. Il s'invite pour nous côtoyer, pour être à nos côtés dans toutes ces difficultés que nous pouvons rencontrer, dans les difficultés que ce monde rencontre. Dieu vient parce qu'il est nécessaire qu'il vienne, que quelqu'un vienne, enfin quoi. Il faut sortir de là. Et Dieu se fait proche pour assurer, pour préparer la consolation. Paul va le dire à sa manière aussi, dans son chapitre 8 de l'Épître aux Romains, versets 20 à 21. La création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Création soumise au pouvoir de la fragilité, de la corruption, de la vanité, mais avec une espérance. Certains ont vécu de cette espérance sans en connaître vraiment la teneur. On a toute une liste dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Ils ont vécu par la foi, ils sont morts dans la foi, mais ils n'ont pas vu ce qui leur était promis. Ils ont vécu d'espérance. Ce n'est pas par la vue qu'on vit systématiquement d'espérance. Il y a tellement de nourriture que nous apporte heureusement la parole de Dieu par son Esprit Saint. Nous sommes convaincus qu'effectivement, il y a des choses à retenir pour nous et à faire connaître. Oui, on ne vit que toujours par la vue, mais on vit aussi par cette réception de la parole de Dieu qui crée en nous de l'espérance. Et nous sommes alors de ceux et de celles qui non seulement, bien sûr, peuvent en vivre, mais sont appelés à le communiquer. Alors nous avons à mesurer chacun pour soi, mais aussi chacune des églises pour elle-même, la teneur de cette consolation que Dieu nous accorde. Si Jésus n'avait pas existé, s'il n'y avait pas d'espérance dans ce monde, vers qui, vers quoi nous tournerions-nous? Alors c'est vrai que nous n'aurions pas ce témoignage des enfants de moins de 2 ans tués par Hérode. C'est vrai que l'histoire de France n'aurait pas été marquée par des guerres de religion comme elle a pu en connaître, et puis tant d'autres lieux qui, au nom de la religion, ont pu malheureusement connaître des massacres, des mésententes, des rivalités. Si Jésus n'était pas venu. Mais Jésus, s'il n'avait pas existé, nous n'aurions peut-être pas beaucoup d'efforts à faire pour nous dire que finalement des guerres, il y en aurait. Des massacres, il y en aurait. Et sous couvert de formes de sagesse que les uns veulent mettre en avant contre d'autres. Et donc en venant vraiment sur notre terre, en visitant notre monde, en visitant nos vies, Dieu a révélé d'une part, la méchanceté de l'humanité, la nôtre, mais ce que la Bible appelle le péché, mais a dénoncé aussi le mal. Parce que nous aurions du mal à le distinguer nous-mêmes, distinguer et dénoncer ce mal pour entreprendre un chemin de vie et de paix. Notre Seigneur est venu, il a témoigné d'un amour dont les hommes sont dépourvus eux-mêmes. Il nous invite à vivre de cet amour. Et il a démontré que ce mal, cette mort, n'avait pas tout pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à un jour nouveau. Un jour, nous sommes invités à nous ranger à la vie que nous donne Pierre. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'étiez pas au bénéfice de sa grâce, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. soyons debout. Là où le mal voudrait nous mépriser, nous isoler, nous ranger à l'égard de ceux qui ne servent à rien ou si peu. Soyons debout avec cette victoire que le Seigneur nous a accordée en Jésus. Et pour reprendre encore une parole de Paul, chapitre 8, versets 18-19, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet une révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. C'est en effet une révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. La question est simple. Chaque jour, quelque part, parole de Dieu ou Dieu dans sa souveraineté, d'une diverse manière, la manière qu'il choisira, va nous interpeller en nous disant « Es-tu mon fils ou es-tu ma fille ?» Je suis prêt à agir, mais je veux agir avec toi, par toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen.